Nous étions restés à la prudence. Nous avions commencé la prudence. Et c'est sûrement très important. Il n'y a pas de personne humaine sans la prudence. C'est un élément essentiel. Et c'est là la grande différence entre l'artiste et l'homme prudent. L'artiste n'est pas par nature prudent. L'art est beaucoup plus intellectuel. La prudence est plus affective. La prudence se prend à partir de ma finalité. Et jamais en dehors de ma finalité. Ma finalité est première pour la prudence. Si je n'ai pas le sens très net de ma fin, je ne peux pas être un homme prudent. Alors, vous voyez, ça, c'est la catastrophe. Quand vous regardez aujourd'hui l'emprise des mathématiques, l'emprise des sciences, les sciences ne vous rendent pas prudent. Les sciences vous donnent une espèce de liberté intellectuelle fausse, qui n'est pas humaine. Qu'est-ce qui donne la liberté humaine? C'est l'amour de la fin. Mon amour de ma fin me libère et me donne une grande liberté intérieure, puisque c'est la seule chose qui est importante. C'est d'être fidèle à ma fin. Ce qui est ma fin, ce que je considère comme ma fin. Et l'amour de ma fin me rend prudent. C'est parce que je suis finalisé par la recherche de la vérité. Je prends l'exemple. Je suis finalisé par la recherche de la vérité. J'aurai donc un souci constant d'être fidèle à cette recherche de la vérité. Et je respecterai les moyens qui me permettent d'être fidèle, sachant très bien que le moindre écart par rapport à ma finalité se répercute violemment dans toute ma vie. La prudence, c'est donc ce regard constant, plus qu'un regard, l'engagement constant vers ma finalité. Je suis engagé dans la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est ma vie. Parce que c'est ce qu'il y a de principal. Tout écart par rapport à cette recherche de la finalité se répercute dans ma vie et devient quelquefois très difficile à rattraper. C'est cet amour de ma faim. Or, la faim, elle se donne à moi selon deux manières. Il y a une première finalité, l'amitié, et une finalité plus profonde, la recherche de la vérité. Quand la recherche de la vérité n'est plus assez forte, et ça arrive pour beaucoup de personnes, la recherche de la vérité n'est pas suffisamment enracinée en nous, que cette recherche de la vérité s'impose. Alors, l'amitié vient au secours. Nous savons que cette recherche de la finalité, pour nous, n'est pas suffisamment enracinée. Nous le savons. Nous savons que nous sommes facilement séduits par des réclames neuves. Séduits par toute espèce de nouveauté qui nous écarte de la vraie recherche de la vérité. On est séduit parce qu'on veut que certaines personnes qu'on estime très fort nous louent. On a un professeur de faculté qui est merveilleux. On fait une thèse avec lui. On est plus sensible à ce qu'il nous dit qu'à la recherche de la vérité en nous. Ça commence comme ça. C'est très curieux. Et ça, nous pouvons tous se comprendre. Nous comprenons très bien ça. La recherche de la vérité en nous et pour nous est une recherche extrêmement personnelle. Ça touche à notre vocation. Notre vocation est cette recherche de la vérité. C'est en ce sens-là que nous avons une vocation parallèle aux dominicains. La recherche de la vérité. Mais nous sentons que beaucoup se laissent prendre, séduire, non plus par la finalité, mais par la séduction de la finalité. Concrètement, nous voyons très bien ce que ça représente. La prudence consiste à revenir toujours sur cette recherche de la vérité. Dans toutes les circonstances, nos amis ont changé. Nous pouvons avoir beaucoup d'amis, professeurs à la faculté. Nous ne voulons pas lui faire de la peine. La vérité et l'amitié, tous les deux sont présents. Mais la vérité avant l'amitié. À un moment donné, l'amitié avant la vérité. Dans toute vie humaine, surtout une vie où il y a une recherche de la vérité, le problème se pose. Et c'est là où il y a quelque chose de très important pour nous. Et c'est une question prudentielle. Hein. La prudence consiste à faire passer devant la recherche de la vérité par rapport à l'amitié. L'amitié me séduit plus parce que je la touche immédiatement, mais elle ne doit pas m'écarter, m'éloigner de la chair de la vérité. Et ça exige de moi-même une espèce de limpidité très grande dans cette recherche de la vérité. Donc, la recherche de la vérité est capitale pour la personne. Une recherche de la vérité, attention, on en a déjà parlé à propos de la sagesse. Ici, c'est recherche de la vérité par rapport à ma vie concrète. Avec l'amitié. L'amitié peut être rivale de la recherche de la vérité. Quand l'amitié devient rivale de la recherche de la vérité, oh, il faut que je fasse attention. Parce que je sais que j'ai un cœur qui est faible. Et quand mon ami dira, mais non, tu te trompes. C'est pas étonnant. Tu es un moine, c'est pas étonnant que tu te trompes. Tu n'as pas une expérience humaine parfaite. Alors, on écoute plus l'ami que la chose de la vérité. J'insiste beaucoup sur cette question-là parce que je crois que c'est quelque chose que tous nous devons faire cette option. Alors nous la faisons sous l'élan de notre don à Jésus et dans la mesure où nous sommes sensibles à l'opinion des hommes, et des hommes particulièrement influents, nous nous laissons prendre. L'amour de la vérité diminue et être en union affective avec telle ou telle personne qu'on aime, qu'on estime, passe devant. Il y a là constamment, je dirais, un problème intérieur de prudence. Ce problème de prudence se pose nécessairement et nous résorvons plus ou moins bien. Mais je pose sincèrement, la prudence me donne un sens très aigu à ma finalité. La prudence me donne un sens très aigu à l'amitié. Puisque l'amitié est une certaine finalité. Et je compte sur cette amitié pour une recherche toujours plus profonde de la vérité. Mais cette amitié peut très bien, à certains moments, me mettre en question, dire est-ce que cette amitié ne va-t-elle pas être excellente pour moi parce qu'elle va me corriger et me donner un sens de la finalité beaucoup plus humain en respectant l'opinion des hommes. C'est sûr que c'est un problème prudentiel extrêmement important, celui-là. Nous avons à respecter l'opinion des hommes, surtout l'opinion de personnes que nous aimons, qui sont proches de nous. Alors, on doit être très attentif à l'opinion des hommes. L'opinion des hommes ne finalise pas ma recherche de la vérité. L'opinion des hommes me facilite la recherche de la vérité. Mais ne détermine pas. Et donc, un problème prudentiel extrêmement important de maintenir d'une façon très pure cette recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité, pour moi, est complexe, puisque l'opinion des hommes fait partie de la recherche de la vérité. L'opinion des hommes, c'est-à-dire ce que ces hommes ont trouvé comme vérité, ça m'intéresse. Et je ne peux pas la rejeter sans voir exactement ce que je peux retenir de ça, ce que je dois retenir de ça, ce qui me permet d'être vraiment présent à toute la recherche de la vérité qui a lieu dans le monde. Il y a une recherche de la vérité actuellement dans le monde. Où est-ce que je me situe dans cette recherche de la vérité ? Est-ce que je me situe par rapport au monde entier ? Je ne suis pas grand-chose, mais je fais quand même partie de l'humanité, et de l'humanité qui recherche la vérité. Donc, il y a là un problème extrêmement important, cette recherche de la vérité, est majeur pour ma prudence. Si cette recherche de la vérité qui commande mon travail, qui commande mes relations humaines, qui me permet de me corriger constamment, qui me permet de me mettre aussi à l'abri. À certains moments, je peux voir que quelqu'un a trop d'influence sur moi dans cette recherche de la vérité, je m'écarte pour que cette recherche de la vérité soit plus vraie. J'en suis conscient, cette recherche de la vérité, et j'en suis responsable. Elle me maintient droit au milieu d'un monde qui ne sait plus ce que c'est que la vérité. Et c'est sûr que cette recherche de la vérité est plus difficile à notre époque qu'au Moyen-Âge. Et cette recherche de la vérité demeure, au point de vue prudence, quelque chose de capital. Mais, alors, c'est plus difficile, parce qu'elle est personnelle. Je dois la choisir et je dois être fidèle dans cette option. C'est très juste que dans la mesure où elle est plus personnelle et moins communautaire, elle réclame de ma prudence un éveil beaucoup plus grand. Si je suis seul à chercher cette vérité, je dois en prendre conscience. Et je dois, par le fait même que je suis seul à la rechercher, vérifier avec beaucoup plus de critique si mon expérience et mes inductions sont justes, si mon chemin est exact. Et donc, on doit être beaucoup plus attentif. Cette recherche de la vérité implique un choix. On a choisi telle voie. On a choisi tel moyen. Et tout ça à cause de cette recherche de la vérité. Et on doit vérifier tout le temps, puisque c'est très personnel. Quand c'est communautaire, on n'a pas besoin de le vérifier tout le temps. Les autres le vérifient pour moi. Et je le vérifie aussi, mais je sais que les autres le vérifient pour moi. C'est ce qui fait, par exemple, la force d'une recherche communautaire de la vérité, comme nous faisons ensemble. On fait une recherche commune de la vérité. Elle est très personnelle, mais elle est en même temps commune. Et je crois que ça aide beaucoup, ça. Dans une recherche de la vérité, d'avoir un ami, d'avoir des amis, d'avoir de plusieurs amis dont on respecte leur choix. Et on veut rester fidèle. Vous voyez, la fidélité est commandée par ce choix. On choisit comme ami quelqu'un qui nous semble, dans cette recherche de la vérité, aller plus loin que nous, aller plus profondément que nous. Et il peut se faire que dans cette recherche de la vérité, on n'ait plus de repères extérieurs. Ça peut se faire. La recherche de la vérité implique la solitude. Elle doit être d'autant plus forte qu'on est seul. Elle doit être d'autant plus rigoureuse qu'on est seul. Et autant que possible, on doit chercher à avoir des amis. Étant donné que nous savons très bien que cette recherche de la vérité est difficile. Et que l'amitié permet de rectifier ce qui serait encore trop personnel, trop individuel. Cette recherche de la vérité, au point de vue prudentiel, me fait choisir le genre de vie que je vais prendre. Le genre de vie que je prends, je le prends en dépendance de ma recherche de la vérité. Jusqu'à un certain point. Parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas la liberté suffisante pour se remettre à la recherche de la vérité. Souvent, on a peu de liberté. On est pris par des obligations qui s'imposent. On doit rester toujours, pour soi personnellement, libre dans ses options. Et on doit régler que mes options sont bien en vue de cette recherche de la vérité. Il y a là, vous voyez, une conscience très nette de la recherche de la vérité. C'est cette recherche de la vérité qui commande la limpidité, la pureté de ma recherche. Alors, cette recherche de la vérité, elle implique l'amour. L'amour de la vérité. Et faire tout ce que je peux pour maintenir cet amour. Oui, alors là, c'est évidemment très individuel, cette manière de rechercher la vérité. Elle est commune dans sa finalité, mais elle implique des moyens très différents. Celui qui est religieux, celui qui est marié, celui qui est engagé dans la vie déjà, d'une certaine manière, pour gagner sa croûte, ben, la recherche de la vérité est limitée. Il est obligé de prendre une situation où il gagne suffisamment pour sauver sa famille. Et il abandonne ça. C'est hélas ce qui arrive très souvent. Alors ça, c'est la prudence. La prudence, c'est notre sagesse pratique. Elle implique une connaissance de soi. Une connaissance de ce que nous sommes, individuellement. Ce que nous sommes, collectivement. Nous sommes engagés dans une communauté humaine, religieuse. On est tous engagés dans une communauté humaine et religieuse, plus ou moins forte. Et notre prudence consiste à vivre dans cet engagement, à respecter cet engagement, à s'en servir le mieux possible. C'est à l'intérieur même de cette recherche de la vérité, notre liberté. Il y a plusieurs manières de la rechercher. On sait très bien. Alors, on opte pour l'une, on peut très bien opter pour une autre manière après. On est critique de soi-même. Et on sait qu'aujourd'hui, cet aspect critique de soi-même est beaucoup plus fort qu'il ne l'était au Moyen-Âge. Alors, on doit faire grande attention que cet aspect critique n'est pas premier. Ça, c'est la prudence. Que cet aspect critique, s'il devient premier, apporte l'infécondité. Quand la critique passe devant notre recherche de la vérité, on est tellement soucieux d'être absolument vrai que cette argumentation puisse se rendre de plus en plus solide, que pratiquement on ne voit plus que ça. On a, je dirais, cette peur terrible de faire une œuvre qui ne soit pas vraie. De faire une œuvre qui dépend trop du milieu dans lequel on est. Et alors cette critique paralyse et peut arriver vraiment à paralyser complètement, à sécher. Alors là, la prudence joue. Vous voyez, elle joue dans notre gouvernement, dans notre manière de nous situer dans le monde d'aujourd'hui. Quand nous voyons ces courants d'idées, nous voyons l'efficacité prodigieuse de certains de ces courants, dans quelle mesure pouvons-nous nous y aller ? Dans quelle mesure devons-nous nous tenir en retrait? Ça, c'est la prudence. Et c'est un problème qui varie tout le temps. Et c'est pas parce qu'on a pris une solution au noviciat que cette solution-là est pour toute la vie. Non. Elle varie selon le contexte différent dans lequel on est. Et ça, c'est la prudence. Et c'est sûrement la prudence est sûrement l'élément le plus variable dans notre personnalité. C'est quelque chose d'extrêmement important de garder cette souplesse, parce que les moyens réclament de nous une très grande souplesse. Utiliser les moyens, les utiliser plus ou moins, les utiliser de façon à ce que on ne soit jamais esclave d'une méthode. C'est, je crois, très important, ça. Être esclave d'une méthode, c'est contraire à la prudence. Parce qu'on sait que toute méthode si intelligente qu'elle soit, est quelque chose de limité. Et que mon intelligence a besoin d'avoir une très grande liberté pour chercher son bien partout. Comme la petite abeille, vous savez, qui cherche son bien dans toutes les fleurs possibles. Alors, on ne peut pas le faire de trop, parce que si on faisait ça, au bout d'un certain temps, on serait tout le temps dans les biens relatifs. Mais il faut le faire suffisamment pour maintenir en nous cette souplesse. La saisie des principes nous donne la lumière. La saisie des principes ne nous donne pas cette souplesse, mais la prudence, à cause de l'affectivité, la prudence est premièrement affective, hein. Affective à l'égard du bien, à l'égard de la fin. Dans la prudence, parce que elle maintient en nous le primat de l'affectivité. Elle veut maintenir en nous une très grande souplesse. Un homme prudent, une personne prudente, fait bien la différence entre ce que représente la finalité et ce que représentent les moyens d'atteindre cette finalité. Les moyens d'atteindre cette finalité, c'est relatif. Ça change. La finalité, elle ne change pas. Parce qu'elle regarde notre nature. Elle regarde notre nature et notre personne. Donc, la prudence va faire constamment, tout le temps, la différence entre la saisie des principes et la manière dont on doit en utiliser. C'est donc à l'égard de la saisie des principes et de la saisie du comment que le point de vue prudentiel varie toujours. Et n'est pas fixe. Parce que, justement, notre intelligence s'approfondit toujours plus. Elle pénètre davantage. Et elle voit donc plus la diversité des choses, des réalités, leur complexité. C'est, je crois, très important au point de vue prudentiel de saisir ce qui est absolu et ce qui est relatif. Qu'est-ce qui est absolu ? La saisie des principes. C'est la prudence qui me montre la différence entre la saisie des principes et la saisie des lois. C'est la prudence qui me montre comment il y a des modifications dans la science au point de vue des conclusions, mais que la saisie des principes va toujours en s'approfondissant. Et c'est cette saisie des principes qui doit être pour nous la première recherche. C'est donc la prudence qui maintient l'unité en nous de la recherche de la vérité. C'est la prudence qui doit nous faire comprendre pratiquement dans la complexité de la vie, ce qui ne bouge pas, ce qui demeure fixe, et ce qui, au contraire, est mobile. Et elle doit saisir le lien entre ce qui est mobile et ce qui est fixe. Saisir dans la réalité pratique les principes au point de vue métaphysique, c'est la substance et l'acte. Plus j'avance en métaphysique, plus l'absolu de la substance s'impose, plus le point de vue de la finalité s'impose. C'est, je crois, ça que nous avons toujours. Il y a toujours un approfondissement dans la saisie de la substance. Jamais se dire « je sais ce que c'est que la substance ». Jamais se dire « je sais ce que c'est que l'acte ». Non, je recherche toujours ce qu'est la substance. Je recherche toujours ce qu'est l'acte. Et je le saisis mieux à travers une modalité particulière qui se donne à moi, une modalité nouvelle que je n'avais pas vue et qui m'aide à vraiment saisir la substance d'une façon beaucoup plus profonde. Vous voyez, la prudence consiste à respecter l'absolu des principes. La saisie des principes est quelque chose qui s'impose à moi. Et la relativité constante de la manière d'utiliser ces principes. Je crois que c'est cela que la prudence réalise en nous avant tout. Ça nous oblige constamment, à la fois de la saisie des principes, et leur application. Et une des choses les plus difficiles, c'est justement d'utiliser les principes, voir leur application. Et les principes demeurent principes dans l'application, demeurent l'absolu. Mais ils demeurent dans le contingent de la vie, dans les difficultés et les oppositions. C'est la différence entre la sagesse qui donne une vision toujours plus simple de la réalité et la vision prudentielle de la réalité qui me fait comprendre de plus en plus la complexité des réalités humaines, des rapports humains. Au fond, cette relation entre sagesse et prudence est quelque chose d'absolument nécessaire pour bien saisir l'absolu à travers le contingent. Et dans le contingent, mon contingent humain porte cet absolu. Et cet absolu, je le retrouve tout le temps. Donc ces rapports entre sagesse et prudence, c'est le grand problème. C'est le gros problème. Certains seront portés à tout simplifier en ne voyant que la sagesse. D'autres verront la complexité de la connaissance humaine et la complexité de cette connaissance humaine qui chevauche à travers cette multiplicité, cette complexité. Et donc, elle doit tout le temps respecter cette complexité. La sagesse métaphysique respecte cette complexité de la vie. Mais elle ne change pas dans cette complexité. Si elle changeait dans cette complexité, on confondrait alors les principes et leurs conséquences. On confondrait le TST, ce que c'est que la chose, sa saisie des principes, substance, acte. Et on ne verrait plus ça. Cette distinction que nous faisons et que nous devons faire entre la saisie des principes et la saisie de la complexité de ces principes dans leur existence doit être pour nous constante. Et c'est en ce sens-là que la prudence m'aide à vivre de la sagesse. Elle est là pour me rappeler tout le temps qu'il y a des absolus qui ne changent pas et qui ne peuvent pas changer, et que vouloir les supprimer, c'est supprimer le sens profonde de notre vie.